France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Fin 1995, début 96, était jouée à la Manufacture des œillets d'Ivry la troisième version de la mise en scène par Patrice Chéreau de la pièce de Bernard Maricoltès dans la solitude des champs de coton, 9 ans après sa création au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Lucien Atoun trouvait là l'occasion de consacrer au tandem Coltès-Chéreau un numéro de mégaphonie pour lequel il avait rencontré à Ivry les deux comédiens de cette troisième version, Pascal Grégory et Patrice Chéreau lui-même. Comme le soulignaient Lucien Atoun et Patrice Chéreau au début de cette émission, en citant Tchekhov et Stanislavski, rares ont été dans l'histoire du théâtre les duos auteurs-metteurs en scène tels que celui que formèrent Coltès et Chéreau. En évoquant les jalons qu'en furent Combat de nègres et de chiens, Key West, Dans la solitude des champs de coton et Le retour au désert, des pièces toutes créées aux Amandiers, c'était les 10 années de la collaboration entre Coltès et Chéreau que rappelait cette émission, dans laquelle des archives donnaient à entendre la voix de Bernard Maricoltès, mort en 1989, à seulement 41 ans. Sans cette disparition prématurée, le tandem Coltès-Chéreau aurait-il donné d'autres créations au théâtre ou au cinéma? Personne ne peut le savoir. Mais toujours est-il qu'en 1996, alors que Coltès était à ce moment l'un des auteurs français les plus joués en France et ailleurs, mais pas pour autant le plus facile, Dans la solitude des champs de coton remportait un grand succès à la Manufacture des œillets où, dans le public, la jeunesse était largement représentée. Mégaphonie, jouer Coltès, pratiquer le théâtre, avec Patrice Chéreau et Pascal Grégory, diffusé le 20 février 1996 sur France Culture.
Mégaphonie. Mégaphonie, Lucien Atoun, Véronique Lamandour.
Je me sens pas mieux dans un théâtre que n'importe où. C'est pas mon lieu, le théâtre.
Hein. Ah bon?
C'est...
Ben,
non, vous savez, je travaille chez moi. Non, mais j'aime bien me trouver dans un théâtre. Mais je fréquente pas les salles, je fréquente pas les plateaux. Je fous jamais les pieds sur un plateau. Jamais. Jamais. Mais non, c'est pas un lieu pour moi.
Enfin, c'est par
j'y suis joué quand même, mais je peux pas dire que c'est un endroit où je me sens particulièrement à l'aise. Je me sens mieux dans des cafés arabes.
Jouer Coltès, pratiquer le théâtre. Avec Patrice Chéreau et Pascal Grégory. Avec les voix de Richard Fontana et de Bernard-Marie Coltès. Et avec la participation de Micheline Atoun, Myriam Boyer, Yves Ferry, Hubert Gignoux et Leslie Hamilton. Collaboration à l'émission, Frédéric Arboué.
Et moi, je n'avais pas de travail et lui ne faisait rien.
Yves Ferry.
Ah, bistrot de la rue de la Huchette, on a dit si on faisait quelque chose ensemble. Et c'est parti comme ça, très vite et tout de suite.
Richard m'avait dit un jour qu'un metteur en scène, c'est l'architecte des utopies des autres.
Et moi, là, j'ai dit ça ?
Oui, vous m'avez dit ça. Je voulais que j'en sorte la bande.
Non, mais c'est...
Alors, aujourd'hui...
C'est prétentieux, ça.
Mais c'est une belle définition.
Ah bah, tant mieux, Julien. Mais ça, mystère, alors. Si je lis ça, je dis c'est beau ce que ce monsieur a dit, mais de... Oui. L'architecte, oui.
Là, vous étiez à la fois l'architecte de votre propre utopie.
Non, mais c'est plus simple. Je suis metteur en scène, c'est tout.
Je trouve que les metteurs en scène montent beaucoup trop de théâtre de répertoire. Un metteur en scène se croit héroïque s'il monte un auteur d'aujourd'hui au milieu de si Shakespeare ou Tchekhov ou Marivaux ou Brecht. Ce n'est pas vrai que des auteurs qui ont 100 ou 200 ou 300 ans racontent des histoires d'aujourd'hui. On peut toujours trouver des équivalences. Mais non, on ne me fera pas croire que les histoires d'amour de Lisette et d'Arlequin sont contemporaines. Aujourd'hui, l'amour se dit autrement. Donc ce n'est pas le même. Personne, et surtout pas le metteur en scène, n'a le droit de dire qu'il n'y a pas d'auteur. Comment voulez-vous que les auteurs deviennent meilleurs si on ne leur demande rien et qu'on ne tâche pas de tirer le meilleur de ce qu'ils font? Les auteurs de notre époque sont aussi bons que le metteur en scène de notre époque. Les auteurs de notre époque sont aussi bons que les metteurs en scène de notre époque. Extrait d'une interview de Bernard-Marie Coltès par François Rémy.
On peut imaginer qu'il y a un rapport, Stanislavski, Tchekhov et Chiro Coltès, sans solliciter l'histoire et sans être faussement modeste.
Bah, je le dis tout le temps, ce qui est très gênant parce que ça veut dire que je me compare à Stanislavski. Mais
ça veut dire aussi que vous comparez Coltès à Tchekhov.
Oui, mais ça c'est plus facile, je le fais volontiers. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est évident, parce que c'est pas si fréquent les tandems, un auteur, un metteur en scène, c'est assez rare. Ça date de la fin du siècle dernier, puisque avant les metteurs en scène n'existaient pas. Et qu'il y en a, il n'y en a pas énormément, je veux dire, il y en a 3 ou 4, et il y en a eu un, en tout cas, que modestement j'ai rajouté, qui était Chiro Coltès, oui.
Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Dans la solitude des champs de coton, Bernard-Marie Coltès, édition de minuit. De l'amour, il n'y en a pas. Je ne veux pas mourir. Je vais mourir. Roberto Zucco, Bernard-Marie Coltès, édition de minuit.
Écoutez, vous faites penser à une interview que j'ai eue de vous, j'étais au Mexique, et une interview qui a été faite par François Coltès, oui. Et qui est très belle, j'ai vu les rushs, et vous disiez dans cette interview notamment que lorsque vous étiez en répétition, et qu'à un moment vous vous posiez des questions sur une scène, vous demandiez à Bernard-Marie Coltès, qui était à côté de vous, qu'est-ce qu'il en pense. Et il vous racontait très gentiment, vous disiez... ce qu'il fallait en penser, c'est-à-dire le contraire de ce que vous aviez peut-être compris vous-même. Est-ce que ça veut dire par là qu'il est difficile de franchir la barrière du langage de Coltès ou c'est simplement vos scrupules de metteur en scène ?
Pas du tout. C'était le même problème avec Genet. C'est le même problème, je crois, avec les auteurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas obligation à donner des réponses claires. C'est-à-dire donner des réponses claires sont des réponses journalistiques ou sont des réponses de metteur en scène qui essayent d'analyser un texte ensemble, en même temps avec les comédiens, Mais les choses qu'on se dit, qui sont des explications simples, quelquefois simplettes, ne sont pas les choses qui ont motivé l'auteur pour l'écrire. Donc c'est tout, je veux dire, c'était normal qu'il dise, il fallait que je me débrouille tout seul. C'était normal qu'il me dise autre chose que ce que j'avais pensé, j'avais mal compris. Et c'est pas forcément grave d'avoir mal compris, mais sa logique était ailleurs.
Bernard Maricolté, c'est l'auteur contemporain français le plus joué en ce moment, aussi bien en France qu'à l'étranger. Tout récemment, à Mexico, Catherine Marnas est venue de Lyon pour monter Roberto Zocco en mexicain. C'était un spectacle remarquable qui sera d'ailleurs repris et peut-être un jour sera-t-il invité en Europe. En France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on annonce un titre de Bernard Maricolté. On peut se poser la question, à quoi tient cet engouement? Pourquoi cette curiosité? Pourquoi cet intérêt pour l'œuvre d'un auteur de notre temps qui est mort il y a quelques années, mais qui intéresse un plus grand nombre et qui intéresse de plus en plus, en particulier, les jeunes spectateurs?
Il y a un certain nombre de personnages qui sont en situation. Et il n'y a pas à proprement parler une évolution. Enfin, il y a en tous les cas, il y a à la rigueur l'évolution d'un personnage.
Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'il y a une action, malgré tout, au sens traditionnel du mot.
Oui, c'est ça. Enfin, il y a quand même un personnage, disons, qui évolue, mais pas du tout en fonction d'accidents qui se passeraient pendant la pièce. Enfin.
Il y a cinq personnages. Qu'il n'y ait pas cinq lignes parallèles. Et que chaque destin soit concerné par celui des quatre autres. Et c'est ce que j'ai fini par trouver, à mon sens, très bien réalisé dans l'état final. Donc il y a un nœud dramatique, indiscutablement.
Bernard Maricolté et Hubert Gignot. Il est vrai que l'écriture de Bernard Maricolté, quotidienne et lyrique tout à la fois, est l'œuvre d'un poète de notre temps qui a su parler aux gens de son temps et qui continue à parler, après sa mort, aux gens qui aiment le théâtre, un théâtre qui bouge, un théâtre qui dérange et un théâtre qui vous touche droit au cœur. France Culture, qui a programmé les pièces de Bernard Maricolté depuis 1972, c'était dans le nouveau répertoire dramatique, c'était alors L'Héritage, pratiquement la première pièce reconnue par Bernard Maricolté dans une réalisation d'Evelyne Frémy. Dans la distribution, il y avait alors deux personnes qui auront beaucoup compté dans la vie de Bernard Maricolté. Maria Cazares, pour qui il a commencé à écrire le théâtre parce qu'il l'a vu jouer un jour à Strasbourg, Médéa de Sénèque dans la version de Vautier montée par Georges Lavelli. Et aussi Hubert Gignot, qu'il avait repéré. Hubert Gignot dirigeait le Théâtre National de Strasbourg. Il avait senti qu'il avait en face de lui un auteur naissant. Il l'avait invité à travailler avec lui. Ces deux comédiens auront été des repères fondamentaux dans le parcours de Bernard Maricolté. En ce qui nous concerne, nous l'avons suivi avec France Culture tout au long de ses productions et c'était tout à fait naturel que nous profitions de la dernière mise en scène de Colté par Patrick Chéroux, c'est-à-dire la troisième version de Dans la solitude des champs de coton, pour parler de Colté, pour dire comment jouer Colté et aussi pour pratiquer le théâtre aujourd'hui, comment on peut prendre les mots, comment un comédien peut-il prendre en charge les mots d'un poète et faire en sorte qu'ils vous touchent sans que vous passiez par 36 parcours trop compliqués. En ce qui nous concerne, nous sommes allés à Ivry, parce que là il y a une manufacture, ça s'appelle la Manufacture des œillets, qui a été repérée par le Festival d'automne et par l'Odéon Théâtre de l'Europe. Et nous avons donc assisté à plusieurs représentations de la troisième version de Dans la solitude des champs de coton. Nous avons même profité de la centième en nous rendant avec Véronique Lamandour et Frédéric Arboué dans les loges des comédiens pour les rencontrer, pour parler avec eux avant qu'ils n'entrent en scène. Et ils nous ont reçus très gentiment, c'est Patrick Chéroux et Pascal Grégory.
Dans la vie, il y a toujours un client et un dealer, oui. C'est sûr, dans n'importe quelle situation. Oui. Mais en revanche, pour parler de la pièce, Patrice qui joue le dealer, moi je joue le client. Dans le fond, pourquoi le dealer? Parce que c'est le premier qui rentre en scène, donc c'est forcément celui qui propose. Et donc il s'est défini comme tel, comme dealer. Mais dans le fond, moi aussi, le client est un peu dealer aussi. Et le dealer est un peu client aussi.
D'ailleurs, lorsqu'on s'était rencontrés il y a 15 jours, je vous ai demandé, au fond, si vous n'auriez pas préféré jouer l'autre rôle que celui que jouait Patrice. Ça vous a étonné, mais vous n'avez pas dit non.
si ma mémoire est bonne.
Ben, je n'ai pas dit non parce que je n'en sais rien. Je ne pourrais pas, absolument pas savoir ce que serait le résultat puisque je n'ai aucune imagination par rapport à ça. Il se trouve que Patrice m'a proposé le rôle du client parce qu'il pensait que je serais plus apte à jouer le client. Mais peut-être, effectivement, je serais peut-être aussi capable, peut-être, de jouer le dealer. Mais il n'empêche que ce spectacle s'est fait comme, de cette manière.
Et vous, Patrice Chéreau, vous auriez pu inverser les rôles ?
J'y ai pensé à un moment, mais comme sous forme de jeu. Parce que quand on pense à un acteur, on pense à un acteur dans un rôle précis. Et quand on a l'idée, par exemple, de la reine Margot, on se dit pourquoi... Ça vient presque en même temps. On se dit pourquoi ne pas le faire avec Isabelle Adjani. Quand j'ai vu Pascal Grégory, je me suis dit il ferait un client formidable. À partir de ce moment-là, je veux dire, on s'amuse une seconde à flirter avec l'idée que ça pourrait être l'inverse, mais ça ne tient pas deux minutes. Donc c'était le client et moi... Les raisons que j'aurais eues de changer, de lui proposer le dealer, étaient mauvaises. Ça veut dire parce que j'étais fatigué, parce que j'avais déjà joué, et ça m'aurait amusé éventuellement de tâter l'autre rôle. Mais c'est pas dans les bonnes raisons, parce que lui est profondément plus disposé à être ce client-là. C'est son emploi, j'ai envie de dire, et moi c'est mon emploi d'être le dealer. Le dealer qui n'a rien.
Qui n'a rien, oui. Mais qui vend.
Qui vend ce qu'il peut.
Voilà. Et qui vend du désir.
Oui, mais parce qu'il a en face de lui quelqu'un qui est prêt à en acheter.
To give, but lie and say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest.
I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper.
Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
Patrice Chéreau, il y a deux choses qui sont dans votre parcours et qu'on connaît beaucoup moins parfois. C'est d'une part le fait que, contrairement, me semble-t-il, à une légende, certes, vous avez monté beaucoup de classiques, mais en réalité, vous avez monté beaucoup de contemporains, des contemporains différents, que les gens n'ont pas toujours vus. Mais un des plus beaux spectacles que vous ayez fait, me semble-t-il, c'est par exemple Quartet de Heiner Müller. Vous avez répété, m'aviez-vous dit à l'époque, dans des conditions extrêmement rapides, dans un faux décor, avec Roland Berthelin et Michel Marquet, mais c'était vraiment un auteur difficile à mettre en scène. Donc, c'est vrai que vous avez monté des classiques, mais c'est vrai qu'il y avait dans la salle Marivaux, et de l'autre côté, il y avait Heiner Müller à Nanterre.
Oui, mais c'était... Quartet, c'est les liaisons dangereuses.
Oui.
C'est-à-dire que je n'ai pas monté d'autres pièces de Heiner Müller, et ce qui était intéressant... c'était de retravailler, de faire une énième variation sur les liaisons dangereuses à partir d'un texte qui est vraiment un texte de théâtre, parce que j'ai une admiration sans borne pour les liaisons dangereuses, qui est un roman que j'ai lu très jeune et que j'ai transporté avec moi pendant des années et des années. Mais j'ai monté... Non, la réalité est que j'avais monté peu d'auteurs contemporains. C'est quand même... ça reste comptablement exact. Et que surtout, j'en ai monté, mais c'était des exceptions qui confirmaient la règle. J'ai monté une pièce de Neruda, j'ai monté une pièce de Dorst. Et après, à Nanterre, les choses ont changé.
Avant, vous avez monté quand même Bond, Lire.
Oui, mais une fois, je veux dire...
vous avez dit que c'était la meilleure pièce. Et le reste ne vous intéressait pas beaucoup.
Oui, je le pense toujours, je crois, oui. Je le pense toujours. Mais voilà, donc...
Non, mais c'est des accidents, donc, ces auteurs contemporains que vous montez? Ou c'est simplement des moments importants dans votre passage par rapport à la dramaturgie en général?
Non, c'est pas des accidents du tout, c'est que j'avais sûrement envie de le faire, et puis, mais je fais pas tant de calculs que ça, vous savez, j'avais envie de les faire, et puis, à un moment donné, brusquement, je repartais régulièrement, probablement par habitude, sur des textes classiques, c'est tout.
Alors, l'autre question qui se pose, c'est que vous avez joué peu, on l'a dit là aussi, récemment, c'est-à-dire, vous êtes arrivé de remplacer des comédiens,
toujours.
Et même pour la première version de La Solitude. Et là, il semble que vous vous révélez à vous-même comme étant un acteur.
Non, c'est le remplacement qui continue. S'il n'y avait pas eu le remplacement de la première version, j'aurais jamais eu l'idée de le jouer. Jamais. Donc c'est le remplacement qui continue. À un moment donné, je suis... parce que je sais, et parce qu'elle le sait, puisqu'il en fait l'expérience tous les soirs, que je suis acteur, j'essaye de faire tout pour être acteur correctement, de faire bien mon métier de, entre guillemets, de, d'acteur, mais que profondément mes réflexes sont différents des réflexes des acteurs, que ma vie est orientée différemment, je dirais que j'ai un énorme plaisir à jouer cette pièce, une grande difficulté quelquefois, mais parce que c'est une expérience extrême, c'est une expérience limite dans des conditions très particulières, alors que voilà. Je préfère être metteur en scène, je veux dire. Mais j'adore faire ça, et je ne me distribuerai jamais dans une distribution, jamais. C'est beaucoup plus agréable de distribuer les autres comédiens et d'avoir du désir pour d'autres comédiens. Je ne me provoque en moi aucun désir particulier.
Oui, mais là,
je n'ai pas envie de me séduire, alors que j'ai envie de séduire les comédiens et les comédiennes avec qui je travaille.
Mais peut-être que là, dans la mesure où il s'agit d'un duo, vous avez envie de séduire l'autre qui est en face de vous.
Ben, c'est parce que c'est le sujet de la pièce.
Pascal Grégory, vous... Quand vous jouez tous les soirs avec lui, j'ai vu le spectacle, on a le sentiment que vous vous tirez mutuellement. Certes, ce ne sont pas les mêmes automatismes, mais vous vous tirez l'un à l'autre, non ?
Oui. Comme dit Patrice, c'est le sujet de la pièce, de se tirer l'un vers l'autre, ou de s'éloigner l'un de l'autre. En tout cas, il y a une attirance, c'est comme un aimant, quoi. Ce que je voulais dire, c'est à propos du métier d'acteur, on n'est pas, je ne pense pas qu'on soit acteur ou comédien, comme vous voulez, impunément. On ne s'improvise pas acteur ou comédien. Il y a des choses en soi insoupçonnables, et parfois au fil de la vie on commence à les connaître, à les interpréter mieux. Je pense que si Patrice est metteur en scène, il est inévitablement metteur en scène, et que, comme il disait tout à l'heure, je pense qu'il ne pourrait pas comme ça passer d'un rôle à l'autre, des rôles différents, très différents même physiquement, de l'un à l'autre. Et comme moi, ou comme énormément d'acteurs ou comédiens, ne peuvent pas faire de la mise en scène. Alors c'est vrai que c'est dans le fond par accident, quoi. Et heureusement, mais ça c'est la force aussi des metteurs en scène, et souvent des grands metteurs en scène, c'est que ce sont des très bons acteurs, ou parfois des très grands acteurs, les metteurs en scène. Mais parce qu'ils savent parfaitement quelles sont leurs limites, et alors donc ils savent jouer un rôle spécifique, mais ça ne veut pas dire qu'ils peuvent se transformer dans différents personnages. Je pense que c'est le cas pour Patrice, c'est parce que le dealer aussi lui convient très bien et il le fait remarquablement bien aussi. Mais je pense que s'il devait jouer un personnage très différent du dealer, peut-être qu'il n'en serait peut-être pas capable, ou il y a en lui quelque chose, même s'il en est capable, il y a en lui sûrement quelque chose qui refuserait de le faire, quoi. Voilà.
Oui, je suis l'homme d'un seul rôle. Le dealer de la solitude des champs de coton. D'ailleurs, en 14 ans, je n'en ai pas joué d'autre au théâtre. Alors, la dernière fois que j'avais joué, quand j'ai joué le dealer en 87, la dernière fois que j'avais joué, c'était en 74. Donc je pense qu'en 21 ans, je n'ai joué au théâtre que le dealer de la solitude des champs de coton. Vous voyez, ça réduit quand même... Eh ben, non, mais c'est... Voilà. Je ne peux pas inventer une autre réalité que celle-là. Par contre, je rejouerai volontiers le dealer avec Pascal dans 2 ans, si on a envie, si on a un trou tous les deux. On repart comme Madeleine Renaud dans Les Beaux Jours. Mais je serai toujours le dealer de la solitude des champs de coton. Et entre-temps, Pascal aura joué 15 autres rôles ailleurs avec d'autres metteurs en scène.
Si je vous ai prêté mon manteau seulement, ce n'est pas que je ne sache pas que vous souffrez du froid, non seulement dans le haut de votre corps, mais, soit dit sans vous offenser, du haut en bas, et peut-être même un peu au-delà. Et en ce qui me concerne, j'aurais toujours pensé qu'il fallait céder au frileux la pièce de vêtement correspondant à l'endroit où il a froid, au risque de se retrouver nu, du haut en bas, et peut-être même un peu au-delà. Mais ma mère, qui n'était pas avare, mais pourvue du sens des convenances, m'a dit que s'il était louable de donner sa chemise ou son manteau, ou n'importe quoi qui couvre le haut du corps, il faut toujours longuement hésiter à donner ses chaussures, et qu'il n'est en aucun cas convenable de céder son pantalon.
Dans ce magnifique lieu qui est la Fabrique des œillets, donc on est un peu au théâtre, mais ça va commencer tout à l'heure. Mais je reviens sur le jeu parce que, que je vous dis, c'est pas que je voudrais que vous confirmiez ce que je pense, c'est simplement en ayant vu le spectacle et en vous ayant vu jouer par exemple vous, Patrice Chéreau, j'ai eu le sentiment dans cette version-là que vous n'étiez pas un metteur en scène en train de jouer. Parce que j'ai vu un certain nombre de metteurs en scène en train de jouer, vous-même, quand vous remplacez par accident, et il y a parfois votre regard se disperse. C'est-à-dire, quand l'autre parle, on regarde si le projecteur est bien allumé, s'il n'y a pas de problème avec tel ou tel jeu, etc. On sent l'acteur metteur en scène qui surveille son spectacle.
C'est ce que j'avais tendance à faire dans la précédente version. Mais là, Pascal m'a rappelé à l'ordre. Et je veux dire, à un moment donné, si on essaye d'être comédien, il faut, un des premiers devoirs est d'être un bon partenaire pour son partenaire. Et puis, j'ai... Pascal est quelqu'un qui a une énorme concentration et j'ai eu envie d'en avoir une égale. À un moment donné, c'est lassant d'être un touche-à-tout, d'être metteur en scène, d'être acteur sur le plateau, puis finalement de regarder aussi le spectacle. Mais j'ai dû apprendre, Pascal vous le dira, j'ai dû apprendre à ne pas regarder les projecteurs, effectivement, et à ne pas regarder le public, et j'ai dû réapprendre tout ça, parce que j'avais tendance à le faire. Et maintenant, il peut arriver n'importe quoi, mais n'importe quoi, je reste concentré. Mais j'ai encore de temps en temps le regard qui part parce que je suis à l'écoute avec les yeux, si vous voulez, de la salle. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas ou que je savais pour les autres, mais une chose est de les savoir pour les autres, et une chose est de demander à un comédien d'être concentré, une autre chose est de trouver la concentration soi-même.
Il y a une chose que tu as appris, Patrice, c'est que je me souviens sur Hamlet ou dans Le Temps et la Chambre, parce que je jouais dedans, parfois tu revenais au bout de 15 jours parce que tu jouais pas évidemment dans ces spectacles, et tu revenais... comme ça que de temps en temps, 10 jours, et tu disais, oh là là, ce que c'est décalé, oh là là, ce qu'ils sont mauvais, c'est effrayant, les acteurs sont épouvantables, et ça, le spectacle avait bougé. Et je pense que maintenant, ça me fait beaucoup rire, parce que tu te rends compte qu'on peut pas être tous les soirs absolument parfait, enfin parfait, ou en tout cas, un soir sur l'autre, c'est totalement différent. Et c'est indépendant, c'est pas dépendant de l'acteur. Nous, sur scène, on ne veut qu'une chose, c'est de toujours être le meilleur possible, de toute manière. Et que le spectacle soit encore mieux que le spectacle de la veille. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait que c'est de l'ordre de l'indicible, on n'arrive pas à contrôler, qui fait que parfois, ça vient du public, ça vient de ce qu'on a vécu toute la journée, les humeurs qu'on apporte le soir quand on arrive sur le plateau, et qui fait qu'à un moment donné, le spectacle décale petit à petit. Et c'est vrai qu'un spectateur qui viendrait dans les premières représentations et qui reviendrait 2 mois après, il verrait un autre spectacle.
Oui, mais ça, je le savais. Je savais qu'un spectacle décalait, que dans un premier temps, ça se fait dans le bonheur, parce que brusquement, un spectacle... Je pense avoir été un des rares metteurs en scène à penser que le spectacle grandit dans les 10 premiers jours et se libère du metteur en scène et se libère de l'exécution scolaire, disons, de ce que le metteur en scène a demandé, et qui devient mieux. Alors que je connais des metteurs en scène qui pensent que la dégradation arrive le jour de la première, que le vieillissement du spectacle arrive le jour de la première et qu'ils vivent dans la douleur. Je souhaite absolument... toujours, Dieu sait, que les acteurs se libèrent de moi et aient de meilleures idées, de plus grandes inventions que les miennes, parce que je pense que c'est un spectacle. Ça, je l'ai toujours su. La chose qui change ici, quand on est désespéré, quand on vient voir un spectacle, d'abord parce que c'est, quand on n'est pas dans le spectacle soi-même, c'est douloureux de venir et de le voir décalé. Quelquefois, on a des bonnes surprises, mais quelquefois, on en a des mauvaises. Et ce qui est douloureux dans la mauvaise surprise de se dire, c'est de ne pas très bien savoir par quel bout prendre le problème et de ne pas très bien savoir comment... refaire travailler les acteurs, quoi dire aux acteurs qui ferait qu'ils vont retrouver un deuxième souffle, étant entendu qu'on s'interdit de redire les mêmes choses qu'on a dites aux répétitions. Ça sert à rien de dire. Mais tu te souviens, je t'avais dit que. Ça n'a jamais aidé un acteur au bout de 10 représentations. Donc il faut retrouver d'autres raisons. Et quand on ne les trouve pas, c'est là où arrive le désespoir. C'est le désespoir du metteur en scène. C'est pas de souffrir du spectacle qu'il estime avoir s'être dégradé, mais c'est de ne pas savoir comment renouveler son intervention de façon à ce que cette dégradation s'arrête. C'est-à-dire que, donc on n'a pas les armes, c'est ça qui rend désespéré. Par contre, là, ce qu'on fait tous les deux en ce moment, c'est qu'on arrive, compte tenu que moi je suis dans un spectacle, on arrive à se dire des choses sur la représentation pratiquement tous les jours, ce qui n'arrive jamais. Et ça, c'est un énorme avantage. C'est-à-dire qu'on... il y a des...
Parce qu'on est deux aussi.
Absolument.
Oui, mais alors la question, c'est parce que vous êtes deux ou parce que le texte de Coltès également vous oblige à une très grande attention, parce que il y a quelques semaines, j'avais rencontré Patrice Chéreau par hasard à la cartoucherie de Vincennes. C'était au moment où il y avait la grève de la faim. On parlait avec Ariane Mouchkine et il nous a dit, je vous quitte parce que demain je prends l'avion pour Édimbourg. Et là, cet après-midi, à 14h, il faut que je répète. Et Ariane Mouchkine lui dit, encore tu répètes? Il dit, oui, parce que chaque jour, chaque fois que je joue, je découvre toujours quelque chose de plus dans ce texte. Est-ce que c'est d'une manière générale ou c'est le texte de Coltès qui appelle ce genre de travail? Pascal Grégory.
Moi, je crois que d'abord, spécifiquement, c'est parce que c'est une pièce à deux personnages. Et donc, inévitablement, il y a quelque chose de très intime. Et d'ailleurs, le spectateur, quand il voit un spectacle, que ce soit celui-là ou d'autres, mais où il y a deux acteurs, deux personnages, il est voyeur, inévitablement. Bon, un spectateur est voyeur, mais là encore beaucoup plus parce qu'il rentre dans l'intimité d'une intimité à deux. Bon, il se trouve que la pièce de Coltès, en plus, fait appel à des choses très profondes, très violentes en soi, dans le souvenir de l'être humain, enfin de nous-mêmes, qu'il faut aller rechercher et qui fait que... Il y a matière à renouvellement sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Oui.
Je dois te trouver, à mon avis, pire qu'au début de la réplique. Une sorte de panique et une impression de viol. Et qu'il y a quelque chose de ton intégrité physique qui a disparu, qui a été volé. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Hein?
Oui.
Vous ne risquez rien. Oh, putain, j'y arrive pas. Oh, c'est chiant.
Où est le problème, là?
Le problème, c'est que je comprends tout.
Oui.
Moi.
Oui.
Je comprends tout ça.
Bon.
Mais avec les mots qui sont écrits, dans, là, à ce moment précis, je n'arrive pas à l'exprimer avec ces mots-là. Voilà, le problème est là. C'est un problème simple. C'est dingue.
En fait, tu mélanges toujours la violence, éventuellement, du désir à la violence tout court. Tu vois, c'est là où je disais, je veux dire...
Oui.
Quand ça t'arrange, tu ne peux parler du désir que sous une forme d'une violence qu'on te fait.
Quand je dis un désir que vous êtes seul à connaître et que vous jugez, peut-être que je ne connais pas mon désir non plus.
Ah ben, si tu penses ça, tu ne peux plus jouer la réplique.
Mais c'est ça qui est...
Ah ben non. Je veux dire, alors, si tu... tu peux pas. Oui, tu peux toujours essayer, mais alors à ce moment-là, c'est. Tu ne peux pas dire ça si tu penses que je ne le connais pas.
Bien sûr, je sais bien. Et qu'est-ce qui lui a fait dire au dealer qu'il connaît mon désir? À quel moment? Je lui ai jamais montré mon désir.
Enfin, écoute, je veux dire, sinon, qu'est-ce qu'on fait depuis le début? De quoi on parle depuis le début? Quel est le monsieur qui dit pour la première fois le mot sexe dans la pièce, à cet endroit-là?
Je le dis là, moi.
Ben oui. Dans cette réplique-là?
Dans cette réplique-là?
Ben oui.
Je lui en ai pas parlé avant.
Ben enfin, oui, non. Enfin, je veux dire, le beau vieux singe à qui on n'a pas à faire la grimace. Non, t'en as pas parlé. Et alors? Tu deviens naïf, là, brusquement, je comprends pas.
Non, je cherche.
Mais comment ça, tu cherches?
Je cherche parce que cette réplique me fait peur. C'est pour ça. Alors, je cherche le maximum de renseignements, de trucs, de... Parce que je ne sais toujours pas comment l'aborder, cette réplique. Je saurais, hein, comment le faire.
Mais
je ne sais toujours pas comment le... Parce que pour moi, c'est pas encore clair, la venue de ça. C'est pour ça. Parce que je ne sais pas... Je ne comprends pas. Parce que, peut-être que je suis borné. Hein.
Non, mais c'est parce que tu ne veux pas comprendre. C'est parce que faut mettre un nom très simple sur ce truc. C'est tout. Faut mettre un nom très, très simple sur ton désir dans cette réplique-là. Sinon, tu rends la tâche impossible.
Bon, bah d'accord, OK.
Non, mais tu comprends ce que je veux dire.
D'accord.
Ça parle que de ça.
D'accord.
Dès l'instant où les mots brute et demoiselle, coquette et brute ont été prononcés, et moi je relance brute et demoiselle, je veux dire, on ne parle que d'une chose totalement... qui est un désir totalement érotisé.
On a le sentiment que Patrick Chéreau, metteur en scène et acteur, fait confiance à un espace bien dessiné, mais après tout, Coppo a parlé du plateau nu, je veux dire, mais qui était un décor en soi, bien sûr, fait donc confiance à un espace très nu, le plus nu possible, encore plus nu qu'à la création de ce spectacle. On joue un peu des éclairages, et on travaille beaucoup sur les costumes, et on fait confiance au jeu des acteurs et au texte. C'est-à-dire, on revient à certains moments de la vie du théâtre, de l'essence même du théâtre. Patrick Chéreau.
Oui, mais parce que j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas mettre 3 tonnes de décor dans une pièce à deux personnages qui durent 1h20, qui avait une question de proportion. que les deux fois où j'ai fait à Nanterre, par exemple, des pièces à deux personnages, c'est-à-dire dans La solitude des Sean Cotton, on a réutilisé les décors de Key West, et dans Quartet de Heiner Müller, on l'a joué dans le décor de Lucio Silla de Mozart.
Dans la fosse d'orchestre.
Non, dans le décor. Aussi. Le décor était monté sur le plateau entièrement, et dans la fosse d'orchestre, on avait réduit la salle, mais que j'avais estimé qu'il ne fallait pas dépenser d'argent pour... On pouvait dépenser de l'argent en proportion. Par contre... ce qui se passe là. Ce qui est intéressant, c'est que la technique devienne invisible. C'est ça qui est intéressant. Parce que c'est un spectacle quand même où en tournée, on était 13 personnes. C'est un spectacle où il y a un camion entier. Il n'y a que du matériel électrique, plus un manteau, plus des tonnes de fil et un contrepoids pour le manteau. Et il y a une console de son, de lumière, etc. Il y avait quand même un camion entier et un jour et demi de montage. C'est un spectacle très méticuleux et qui peut se dégrader techniquement. D'une certaine façon, c'est plus difficile de faire voler un manteau que de faire arriver un cheval au galop sur un plateau. Voilà, donc, c'est une question de proportion. Il se trouve que ces effets-là sont à la fois spectaculaires et très réduits, apparemment modestes, mais faussement modestes, que c'est un faux spectacle léger, oui. Et que, c'est tout, je veux dire, la méthode, la main de l'auteur, enfin, du metteur en scène, je veux dire, n'a pas changé, a changé simplement... que c'est un spectacle à deux, qu'il faut faire entendre effectivement parfaitement le texte, que d'une certaine façon, plus les années passent, plus on comprend qu'on peut faire confiance totalement au texte, ce que j'aurais peut-être dû faire d'ailleurs plus sur Combat de Nègre. Combat de Nègre a été une, et Le Chien de Bernard a été un spectacle que moi j'ai adoré, mais à un moment donné, aux yeux de certains, je veux dire, les voitures, le feu d'artifice, Piccoli, Léotard, tout ça, ça a pu sembler faire obstacle, alors que je pense au contraire, ça a aidé. Par contre, le décor des Key West a été une leçon, parce que ça fait totalement obstacle à la pièce. Pas le décor lui-même, l'énormité, la taille du spectacle.
La machinerie, disons.
La machinerie du spectacle. Mais Key West, d'ailleurs, à un moment donné, la nature reprend ses droits. Key West faisait très peu de spectateurs. J'ai recoupé dans le texte, on a supprimé des mouvements de machinerie. Dans les 15 derniers jours, on jouait Key West pour 250 personnes. Tous les acteurs s'étaient rapprochés du bord du plateau. Tous les spectateurs s'étaient rapprochés. Et on jouait une toute petite pièce intime absolument formidable.
Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit?
Je veux pas le savoir.
Il menace l'homme Maria. Nécroaille. Il menace Ram. Moi, je t'y coupe. Ram.
Je comprends très bien ce que vous dites, l'histoire du camion et des 13 personnes. Ça me fait penser à ce que disait, par exemple, Meyerhold, qui disait que le spectacle le plus improvisé, c'est celui qui a été le plus répété. Donc ça participe de la même idée.
C'est le cas de celui-là.
Absolument. Mais moi, j'ai le sentiment que c'est aussi, c'est pas seulement un rapport, je veux dire, vous voyez, c'est pas moi qui ai parlé d'argent et de coûts de décor. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a un rapport physique qui se crée entre ce texte et votre conception du théâtre. Aujourd'hui, peut-être ça va changer dans 2-3 ans.
Non, mais oui. J'ai pas de conception du théâtre. C'est la manière du metteur en scène qui a changé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, faire un spectacle apparemment aussi simple et aussi peu spectaculaire que celui-là, c'est une chose que j'aurais pas été capable de faire il y a 10 ans. C'est ça surtout. Mais il est apparemment simple. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est que la technique ne se voit pas. C'est-à-dire que c'est pas la masse de la technique qui a diminué, c'est le fait qu'elle est invisible. Mon père, qui était peintre, disait « il ne faut jamais voir le pinceau ». Il ne faut jamais voir la main de l'artiste. Voilà. Donc je sais qu'on ne voit pas ma main. Mais il y a beaucoup de mains pour qu'on ne la voit pas. Il y a beaucoup de mains minuscules, plurielles, derrière, qui fait qu'il n'y a pas de main du tout et que ça semble très simple. Ben, parce que la très grande beauté... D'abord, c'est de dire, une envie de mettre en scène, ça, c'est pas une envie d'acteur. C'est de dire des choses les plus graves avec le plus de légèreté. C'est une chose qui n'est pas un but qu'on a quand on a 20 ans ni quand on a 30 ans, mais quand on a 50, on se dit brusquement, il faudra arriver à la fois être plus profond et en même temps plus léger. Voilà, c'est tout.
Oui, donc il y a une évolution.
Ah bah évidemment ça.
Bon, mais d'accord. Non mais je veux dire que
ah bah, si
c'est la première
non,
fois.
Non mais c'est évidemment. Non, mais si vous voulez me faire dire, si vous voulez me faire dire que je ne suis pas le même homme qu'il y a 30 ans, sûr. Absolument sûr.
Non, c'est pas ce que je voulais vous faire.
Heureusement d'ailleurs. Heureusement.
Pour vous, mais c'est la première fois que vous citez par exemple votre père qui était votre premier spectateur,
c'était pas mon premier spectateur.
Ah si, il adorait vos spectacles.
Ah bah, oui. Et j'adorais sa peinture.
Je sais, mais c'est la première fois que vous le citez en disant cette histoire de pinceau. C'est très important cette main. Qu'on ne voit pas. Souvent, vous êtes caché derrière plusieurs mains.
Non, mais ce qui est drôle dans mon cas, c'est que je fais la Reine Margot et immédiatement après, je fais la Solitude des Champs de Coton. Voilà. C'est cette Solitude des Champs de Coton-là. C'est amusant dans la vie, c'est de faire un énorme film qui coûte 144 millions et de faire ça, qui ne coûte pas 144 millions. Et de me situer en plus, ce qui est amusant en plus, c'est d'autres choses, mes mécanismes. De me situer en plus là où les gens ne m'attendent pas. C'est-à-dire là où on pense que je vais refaire un film, exactement comme la Reine Margot, je me retrouve au théâtre, uniquement avec Pascal et dans une économie réduite et. En refaisant, c'est sûr qu'une fois, quitte à revenir au théâtre, je ne me pose pas la question sur le théâtre tous les jours, je me dis, quitte à revenir au théâtre, qu'est-ce qui fait la valeur même du théâtre, la rareté du théâtre? Et ce qui est troublant, c'est de voir même qu'au milieu des grèves, au milieu de la guerre civile qu'on est en train de vivre, les gens viennent et viennent s'abreuver quand même à cette parole, et que visiblement, pendant 1h20 tous les soirs, et là, je dis ce que je vois, moi, comme acteur, au centre du spectacle avec Pascal, on arrive à leur restituer une parole qui les fascine. Donc, à un moment donné, c'est le genre de spectacle où on se dit, ça redonne confiance dans le théâtre. Ce qui, pour moi, si les gens me disent, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire après au théâtre, par exemple, je ne le sais pas. Parce que, à la fois, je suis convaincu qu'on touche à l'essence même du théâtre, là, ce qu'on fait tous les soirs avec Pascal. Mais du coup, je ne sais, j'ignore absolument sur quoi ça pourrait bien déboucher pour moi, pour des projets futurs. Je suis à la fois fasciné par la nouveauté de ce qu'on fait tous les soirs, la différence comme ça, et en même temps pétrifié parce que je ne sais pas. Pour l'instant, ça me semble une expérience sans lendemain, mais c'est ça qui est intéressant.
Quel plaisir tirez-vous du risque d'être abusé? Je ne suis pas venu en ce lieu pour trouver de la douceur. La douceur fait le détail. Elle attaque par morceaux, elle dépèse les forces, comme un cadavre en salle de médecine. J'ai besoin de mon intégrité. La malveillance, du moins, me gardera entier. Fâchez-vous! Sinon, où puiserai-je ma force? Fâchez-vous, nous resterons plus proches de nos affaires et nous serons sûrs que nous traitons tous deux la même affaire. Car si je comprends d'où je tire mon plaisir, je ne comprends pas d'où vous tirez le vôtre.
Si j'avais un instant douté que vous n'eussiez ce qu'il faut pour payer ce que vous êtes venu chercher, j'aurais fait un écart lorsque vous êtes approché de moi. Les commerces vulgaires exigent de leurs clients des preuves de solvabilité. Mais les boutiques de luxe devinent et ne demandent rien. Ni ne s'abaisse jamais à vérifier le montant du chèque et la conformité de la signature. Il est des objets à vendre et des objets à acheter tels que la question ne se pose pas de savoir si l'acheteur sera capable d'en acquitter le prix, ni combien de temps il mettra à se décider. Ainsi, je suis patient, parce qu'on n'offense pas un homme qui s'éloigne lorsqu'on sait qu'il va rebrousser chemin. On ne peut revenir sur l'insulte alors qu'on peut revenir de sa gentillesse. Il vaut mieux abuser de celle-ci que d'user une seule fois de l'autre. C'est pourquoi je ne me fâcherai pas encore, parce que j'ai le temps de ne pas me fâcher. Et j'ai le temps pour me fâcher. Et que je me fâcherai, peut-être, quand tout ce temps-là sera écoulé.
Je me rappelle qu'au moment de la première version de La Solitude, c'est venu donc après Key West, et vous avez dit, de toute façon, j'utilise une partie, les décors de Key West vont me servir puisque je vais les utiliser pour La Solitude. Et vous avez joué en bifrontal, ce qui n'est pas évident pour le non-acteur que vous prétendez être. C'est la chose la plus difficile, sur un plateau nu, de jouer en bifrontal un texte comme celui-là. Faut bien donc.
Je ne jouais pas dans la première version.
Non, non, mais j'entends. Mais je
l'avais fait déjà pour Combat de Nègre.
Oui.
C'est une chose qui est venue de Combat de Nègre, et c'est une chose qui est venue d'Ariane Mnouchkine en plus. Que j'ai trouvé très, très, très beau, que j'ai fait.
Lequel spectacle ? D'une manière générale ?
Non, c'est.
93,
peut-être ? Non. C'est une chose qu'elle avait faite qui était le procès de Václav Havel. La reconstitution du procès de Václav Havel. Oui. Et moi, j'ai refait la même chose en Allemagne. En 80, j'ai reconstitué le procès de Václav Havel sur le même modèle qu'elle. Et c'est là la première fois que j'ai fait du théâtre bifrontal. Et en 83, trois ans après, j'ai réutilisé la même chose pour la première fois de ma vie dans un spectacle de théâtre, enfin la deuxième fois, disons, avec Combat de Nègre. Et quand j'ai compris que la solitude se passait dans une rue, que c'était deux personnes, où théoriquement l'un des deux empêche de passer l'autre, ou en tout cas c'est ce que l'autre lui reproche, je me suis dit, il faut que ça soit bifrontal aussi. Parce que je ne vois pas comment on peut faire ça sur un plateau. Voilà.
Parmi les spectateurs que nous avons pu repérer, qui sont venus plusieurs fois voir le spectacle à la manufacture des œillets, le même soir que nous-mêmes, et c'est ça le hasard qui est magnifique, Frédéric Arbouet a repéré le photographe de théâtre, Leslie Hamilton.
Ah, c'est brûlant, plutôt, c'est même pas chaud, parce que c'est la seconde fois que je le vois, c'est la troisième fois que je le vois, mais c'est la seconde fois que je le vois en 10 jours. Et c'est encore plus fort, encore plus cru, encore plus troublant, encore plus dévastateur qu'il y a 10 jours.
Pourquoi en 10 jours vous avez eu le besoin de revenir, de revoir
ce
spectacle ?
C'était évident, la première fois j'allais revenir. C'était évident, je me l'étais promis.
Et pourquoi ? Qu'est-ce qui a déclenché cette envie ?
Pour les deux et pour le texte. Pour les deux. Pour l'éphémère du théâtre en tout cas, pour l'amour du théâtre. On revient. Et pour revivre avec eux. Pour suivre, pour discerner le trouble, la séduction.
Vous êtes photographe ?
Oui.
Qui fige l'instant.
Non, qui suit les désirs du metteur en scène, l'ellipse dans l'espace et le dire. Ce n'est pas juste la photo de théâtre pour l'anecdote. C'est le geste, c'est le déplacement, c'est le non-vu comme le non-dit. Et justement, là, je pourrais le voir pour 5 fois en 5 jours.
Non, mais justement, la photographie, qui est quand même une trace, qui restera la mémoire de ce qu'est de l'éphémérité du théâtre.
C'est la mémoire de Chéreau que je voudrais enregistrer comme la mémoire de vitesse pour essayer de faire comprendre la tâche et l'intention du metteur en scène dans l'espace et dans l'intelligence, la compréhension de faire parler l'auteur, comme l'auteur l'a espéré, dans les meilleures conditions. Donc je pense que la photographie, c'est un signe, mais en fidélité avec le réalisateur, pas juste dans l'anecdote.
Et de réentendre ce texte de Coltès ?
Ah, moi je suis encore plus troublée à chaque fois.
Qu'est-ce qui vous trouble ?
L'ambiguïté, la vérité, la contemporanéité, le désir, la solitude, la désespérance et l'amour qu'il dit ne pas exister et qui existe tout du long, jusqu'à l'amour de la mort, de l'agression. Donc pour moi, Chéreau me troublera toujours et Pascal Grégory.
C'est Chéreau ou c'est Coltès ?
C'est Chéreau à cause de Coltès et Coltès à cause de Chéreau, donc je ne pourrais pas
le voir.
À cause
de grâce ?
Dans leur grâce, à eux deux. Donc à cause de leur rencontre. Donc ça revient au couple de ce soir.
Cette série, vous l'avez créée en Italie, à Venise, vous l'avez jouée à Milan, vous êtes allé en Espagne, je crois, vous êtes allé à Marseille, vous êtes allé à Édimbourg.
Oui, partout.
Et là, vous êtes à la fabrique, la manufacture des œillets, et vous allez terminer à New York.
Oui.
Chaque fois, vous changez de dispositif en fonction des lieux.
Ah non, on ne change pas de dispositif, on change de lieu. On ne change pas de dispositif. Ce n'est pas les mêmes murs, ce n'est pas les mêmes écartements. Quelquefois, il y a des trous, quelquefois, il y a des portes, quelquefois, il y a des fenêtres, quelquefois, il y a des murs en briques, quelquefois, il y a du carrelage par terre, quelquefois, il y a 200 mètres de profondeur comme à Vienne, quelquefois, il n'y a pas de profondeur du tout. La seule chose qui reste, c'est les gradins, le biais des gradins, l'écartement des gradins. C'est-à-dire 5,30 mètres d'un côté, 8,70 mètres de l'autre.
Voilà, c'est tout. Et la longueur des gradins, 16 mètres 20 ou 17 mètres. Un jour, on a fait pour 19 mètres les gradins. C'était difficile parce que ça augmente l'air de jeu. Et puis voilà. Et par contre, on essaie à chaque fois de corriger l'acoustique. C'est-à-dire le plafond acoustique qu'on a là, on l'a emmené une fois sur deux à peu près. Il était à Édimbourg, il n'était pas à Toulouse parce qu'on entendait très bien. Il était au Havre, il était à Barcelone, enfin, donc, parce qu'il aide énormément le plafond.
Juste avant de venir, hier soir, je me promenais sur le pont neuf. Et alors, voilà quoi ? Que je me sens tout d'un coup si bien. Oh ! Si heureuse, comme jamais, sans raison. C'est terrible. Quand il m'arrive quelque chose comme cela, eh bien, je sais que cela va mal tourner. Je n'aime pas rêver de choses trop heureuses, ou me sentir trop bien, ou alors... Ça me met dans des états pour toute la sainte journée et j'attends le malheur. J'ai des intuitions, mais elles sont à l'envers. Et elles ne m'ont jamais trompée. Oh, je ne suis pas pressée de sortir d'ici, Biquet. Bernard Marie Coltès, Combat de nègre et de chien, édition Stock.
Est-ce que ce travail... Cette rencontre qu'il y a avec le public, en particulier un public de jeunes qui vient, dans quelques instants, ça sera la 101e représentation. Donc ça fait 100 fois que vous jouez cette version. Est-ce que ce public qui vient, cet accueil, cette adhésion, ne repose pas aussi sur le texte ou c'est seulement sur le travail et le texte? Mais est-ce que ça peut se faire avec d'autres textes? Ça tient à quoi?
D'abord, ça tient au bouche à oreille, parce que les gens qui ont été au début ont adoré, donc forcément, il y a une sorte de bouche à oreille. Bon. Et puis effectivement, beaucoup de jeunes viennent, des gens de 20 ans, 25 ans, qui sont pas forcément, d'ailleurs, qui ne sont jamais allés au théâtre. Il y en a parfois, c'est la première fois qu'ils voyaient une pièce de théâtre de leur vie. Je pense que c'est lié à l'histoire, avant tout, parce que le texte n'est pas un texte de la rue, c'est pas un texte facile, c'est un texte quand même élaboré, écrit, avec parfois des mots d'ailleurs qu'on n'utilise plus. Donc pour effectivement des gens très jeunes qui n'ont pas une habitude intellectuelle, une habitude artistique même, c'est plutôt difficile d'accéder à ce texte. Bon, je pense que c'est l'aventure de ces deux personnes qui sont en manque de désir, à la recherche d'un désir, en manque de beaucoup de choses, presque de tout, qui sont en manque d'amour, en manque d'amitié, en manque de... C'est un manque métaphysique presque, et je pense que ça reflète... Mais vraiment, ça colle parfaitement à l'univers dans lequel vivent les gens très jeunes dans la société actuelle. C'est-à-dire qu'ils sont dans un vide et sans savoir ce qu'ils en font, ce qu'ils vont faire demain. Leur avenir paraît, semble bouché. Enfin, c'est ce qu'ils pensent, mais c'est sûrement peut-être aussi la réalité. Et il y a quelque chose d'un non-avenir qui fait que la pièce reflète...
C'est-à-dire ce qu'on disait autrefois, nos futurs.
Nos futurs, oui, il y a quelque chose comme ça, il y a de cet ordre-là, de nos
donc
futurs.
Donc ça tient au texte
Ça tient à la dramaturgie, ça tient au texte.
Et au travail des comédiens et du plateau.
Et à la façon dont on l'interprète, c'est sûr. Et à la nudité aussi du lieu, à l'essence même du théâtre dont parlait tout à l'heure Patrice, c'est-à-dire deux acteurs qui jouent sans décor, un costume tout simple. C'est vrai qu'il y a aussi des lumières, il y a aussi un peu de musique. Mais enfin, c'est quand même deux acteurs à poil sur le plateau.
Non, à poil, je veux dire.
Enfin, je veux dire intérieurement.
Il paraît que le nu revient finalement au théâtre.
Non, on n'est pas nu.
Comme disait... Peter Brook, vous êtes mis à nu, mais vous n'êtes pas nu.
C'est un enchère précis. Nu sur le plateau.
Parce que Brook, il disait que le nu, c'est déjà un costume.
Ah oui, ça c'est vrai. Il a raison.
Oui.
Il a raison. Non, vous n'êtes pas costume dans le regard de l'autre.
Bon. Alors donc.
Non, mais c'est vrai que ça, c'est aussi l'écriture et la dramaturgie et l'écriture de la pièce aussi qui interpelle les gens, enfin les jeunes, spécialement les jeunes.
Mais
les
alors maintenant que vous avez joué depuis 100 fois donc ce texte de Bernard Marie Coltès que vous avez créé. À Venise.
Oui.
Et donc vous allez jouer en Italie, puis vous allez tourner, puis vous allez terminer à New York, je crois.
Voilà.
Voilà. Alors, est-ce que vous êtes plus curieux, vous, l'acteur que vous êtes, plus curieux des œuvres de Coltès?
Il se trouve que quand Patrice m'a proposé donc cette pièce, je connaissais mal l'univers de Coltès. Parce que j'ai vu tous les spectacles de Chéreau, de Patrice, depuis que j'ai 17 ans. Sauf Key West. Bon. Et donc l'univers de Coltès était lié à l'univers de Patrice. Et dans le fond, m'intéressait beaucoup plus, étant donné que je suis acteur et qu'un acteur a besoin de metteur en scène, m'intéressait beaucoup plus les spectacles de Chéreau, mais de n'importe quel auteur. Donc Coltès, finalement, m'a pas frappé comme ça. Non, j'ai pas été. Bon, dire, j'étais peut-être un peu plus. J'étais plus jeune, et puis je sais pas.
On parle beaucoup de jeunesse aujourd'hui.
Mais enfin, je veux dire par là que Coltès était précurseur, parce que il y a une dizaine d'années, La solitude dans les champs de coton a eu peut-être moins d'impact sur les jeunes ou sur le public que maintenant. Or, il l'a écrit quand même il y a 10 ans. Or, maintenant, bon, comme je vous disais, il y a un impact incroyable.
Non, vous avez raison, parce que la première de cette première version à Nanterre, je m'en souviens, il y avait des gens qui étaient d'un certain âge ou qui connaissaient bien le théâtre, qui croyaient bien connaître Chéreau, qui croyaient connaître un peu Coltès, et qui se posaient des questions sur cette dramaturgie qui trouvaient peut-être, certains trouvaient que c'était un peu compliqué, un peu ennuyeux, pas forcément direct, un peu ésotérique, et en réalité, il y avait un auteur fantastique qui était derrière, mais qui n'est pas apparu à certains immédiatement, n'est-ce pas, Patrick Chéreau?
Oui, il a fallu du temps. Je pense que c'est maintenant. Je veux dire, la première mise en scène de Coltès que j'ai faite, c'était en 83. Je pense que c'est maintenant qu'il a pris son ampleur, qu'il a pris sa place, et que tout le monde le joue, et que ça a pris un peu plus de 10 ans. Oui. Voilà, ça doit être normal, à mon avis.
Oui, moi, je pense qu'un auteur a besoin d'une dizaine d'années pour.
Oui, mais c'est. Bon, je pense que la destinée, la postérité, comme ça, des pièces de Coltès va être encore mille fois plus grande dans quelques années. Ça, je suis absolument convaincu.
Myriam Boyer.
Quand je l'ai vue donc, au rond-point avec Jacqueline Maillan, que je trouvais d'ailleurs formidable, je suis sortie et j'ai dit à Coltès, je la jouerai. Et puis, c'est formidable parce que vous avez beaucoup de comédiens qui comme ça, sont attachés à des rôles. Oui. On connaît beaucoup de comédiens avec Antigone. Et ben moi, on me l'a proposé. Ça a été une grande rencontre. Je crois que... Je dis toujours que j'ai l'impression d'être une chanteuse, d'avoir les mots qui me viennent presque comme si on avait dit bah tiens il faut qu'elle dise du Coltès parce que ça lui correspond, et je crois qu'il n'y a pas de hasard. Peut-être ça a été ma première rencontre théâtrale, que Patrice m'a fait comprendre sûrement Coltès aussi à l'époque, et je me sens vraiment investie. Enfin j'ai l'impression que je sais comment le jouer.
Que je voudrais vous poser à vous, Pascal, c'est-à-dire que vous avez vu Retour au désert.
Oui.
Et je sais que Myriam Boyer, qui avait créé donc Combat de nègres et de chiens, d'ailleurs ce choix avait étonné beaucoup de gens, parce que vous avez mis beaucoup de temps à trouver la femme dans ce type de travail d'écriture. Et donc quand elle a vu Retour au désert, elle a senti quelque chose d'important là-dedans. Et vous, non, pas tout de suite, vous, Pascal Grégory. Vous avez senti surtout le travail de Chéreau. Et oui, pas l'œuvre de Coltès.
Oui, moi, je suis peut-être pas très malin, mais bon, il se trouve que l'univers de Coltès me parlait pas, enfin, me disait pas grand-chose.
Et maintenant.
Mais même pas il y a pas si longtemps que ça, quand Patrice m'a proposé la pièce, donc il y a 6-8 mois, j'ai eu beaucoup de mal à la lire. Bon, alors ça, c'est des faiblesses d'acteurs. On a tous les faiblesses d'acteurs. Moi, je suis un très mauvais lecteur de théâtre. Et je suis un très mauvais lecteur de scénario, et je me force et j'apprends, mais peut-être que dans 10-15 ans, j'espère à ce moment-là bien lire des scénarios ou bien savoir lire des pièces. Il se trouve que j'ai encore du mal. Bon. Et là, j'ai eu du mal à lire cette pièce. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je comprenais. Comme Le temps et la chambre de Botto-Strauss, que j'avais joué aussi avec Patrice à l'Odéon, j'y comprenais rien non plus. Et puis là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est très très compliqué à lire. J'arrivais pas à comprendre le personnage, j'arrivais pas à comprendre la psychologie du personnage. Puis bon. Et alors, Patrice, très intelligemment, on m'a fait lire des choses de Coltès, m'a fait lire aussi des choses qui n'ont rien à voir avec Coltès. Le legs de Marivaux, par exemple, qui parle un peu quand même de la même chose. Et puis des lieux où Coltès a vécu. Moi, je me souviens, on avait été, mais ça m'avait rappelé, ça, dans mon souvenir, j'avais été dans un restaurant dîner avec Patrice où Coltès allait souvent. Dans un petit restaurant africain. Tout d'un coup, il y a eu des moments comme ça où, que Patrice m'avait montré. Par exemple, Coltès avait habité dans un hôtel qui s'appelle L'Aiglon, boulevard Raspail, qui est une sorte de no man's land très étrange à côté du cimetière Montparnasse où il n'y a pas de magasin. C'est très étrange ce petit quartier-là qui est comme on se croirait un peu, je sais pas, on se croirait nulle part. Et tout ça fait que l'univers de Coltès est rentré en moi, petit à petit. Et après, j'ai commencé à lire des textes de Coltès, et là, j'ai compris beaucoup plus l'univers plutôt que la pièce. Mmh. Et la pièce est venue, et j'ai commencé à comprendre la pièce au fur et à mesure des répétitions.
Mais l'univers de Coltès n'est pas nécessairement l'univers de Chéreau, vous êtes d'accord ?
Ah non, ça n'a rien à voir. Ce sont réellement deux univers différents qui se côtoient, qui se mélangent parfois, mais c'est quand même deux univers très spécifiques et très différents.
Il semblerait, dans les interviews qu'on entend de vous depuis quelques temps, il semblait que vous étiez... Vous acceptez de dire que vous étiez plus complice dans la vie en dehors du théâtre que vous ne paraissiez l'être à une certaine époque. C'est-à-dire, il y a une époque, on a le sentiment, vu de l'extérieur, qu'il y avait un metteur en scène, directeur de théâtre, et un auteur qui rêvait d'être joué par ce metteur en scène, mais que vous aviez deux vies, chacun la sienne, séparée bien évidemment, et pas beaucoup de choses à échanger en dehors du théâtre, voilà, pour aller vite. Et apparemment, aujourd'hui, vous en parlez plus facilement.
D'abord, j'en parle parce que quand on me pose des questions, c'est-à-dire si on ne me pose pas de questions sur quand est-ce que je le voyais, combien de fois je le voyais par semaine et combien de fois je l'appelais au téléphone, c'est quelqu'un que j'avais envie d'appeler tout le temps, que je voyais souvent, avec qui j'allais au cinéma, avec qui on rigolait énormément et on dînait une fois par semaine, je sais pas. Et j'ai toujours pensé que j'avais toujours à lui demander son avis sur tout. Et je lui ai demandé son avis sur les paravents. On a essayé de travailler sur les paravents immédiatement après Combat de Nègre. On a fait un scénario ensemble, on s'est vu très très souvent pour faire ce scénario, qu'il a écrit lui d'ailleurs. Il est devenu lecteur à un moment donné à Nanterre, il lisait tous les textes qu'on recevait à Nanterre, il a fait des notes de lecture qui étaient incroyablement brillantes. Et puis quand il me parlait d'un film qu'il avait aimé, on allait le revoir, il m'a emmené voir des films de kung-fu, parce qu'il adorait ça. Et on riait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je me souviens, un jour, j'ai une photo chez moi où il est sur le tournage de Adieu Bonaparte de Chahine, parce que je lui ai dit, je vais en Égypte, et il m'a dit, j'aimerais bien y aller. Je lui ai dit, ben viens, je veux dire, et puis je l'ai fait venir sur le tournage de Chahine. Et puis on a fait du cheval aux pyramides ensemble, enfin je vous passe les détails, mais voilà, c'était un grand, grand ami, quoi, c'était. Et on s'amusait beaucoup, on riait beaucoup ensemble, en tout cas.
Mais vu de l'extérieur, dans lequel je me trouvais, il donnait l'impression que vous l'impressionnez beaucoup. Et à vous entendre, on a l'impression que
c'était réciproque.
C'était réciproque, oui.
C'était réciproque parce qu'il pouvait être très très impressionnant aussi, très très sûr des idées qu'il avait. Je veux dire, son combat avec la langue était une chose dans laquelle on ne pouvait pas rentrer. C'était son obsession à lui. C'était la chose que lui seul pouvait résoudre ou ne pas résoudre. Et c'était des crises qu'il avait dans lesquelles on ne pouvait absolument pas rentrer. Je veux dire, donc il était secrètement habité par une obsession qui était d'écrire. C'est une chose qu'il ne pouvait partager avec personne, et surtout pas avec moi, qui ne recevait les textes qu'une fois finis, et qui essayait de les rendre, et quelquefois, ce qu'on mettait sur le plateau, naturellement, même si on est très bon ami avec un auteur, naturellement, devait lui sembler très en dessous de ce qu'il avait écrit, ou de la douleur qu'il avait eue à écrire tout ça. Je veux dire, ça c'est tout ça qu'on apprend quand on découvre un auteur et qu'on le suit, qu'on l'accompagne, puisque j'avais décidé que toutes les pièces qu'il écrirait, je les montrais.
Toujours du mal à écrire, hein. Mais j'ai plus les angoisses que j'avais avant parce que je me rends compte que le théâtre c'est pas sérieux.
Ah bon?
Avant je le prenais très très au sérieux, et puis maintenant je me rends compte que c'est quand même la futilité absolue, et que c'est pour ça qu'il faut la faire absolument parfaitement.
Mm-hmm. Bernard-Marie Coltès.
Je croyais toujours avant que pour écrire il fallait respecter un certain nombre de règles sur le déroulement du temps, sur toutes ces choses-là, et j'ai appris avec Shakespeare qu'il n'y a aucune règle, il y a que la cohérence se trouve dans le sujet.
Extrait d'une lettre de Bernard-Marie Coltès pour sa mère, datée du 5 juillet 1977. Il suffit de passer la barrière du langage et tout doit être accessible. C'est l'éternelle opposition entre le grand voyageur et le philosophe en chambre. Chacun a sa manière de connaître le monde, mais tous les deux le connaissent, même s'il n'est pas facile de les faire se rencontrer. Aristote a pensé et connu le monde sans quitter le coin de sa cheminée. Laurence d'Arabie a parcouru physiquement l'univers pour le comprendre. Voilà les deux extrêmes de la connaissance. Voilà ce qui se reproduit un peu partout. Voilà, toute proportion gardée, la seule différence entre nous. Et si elle exige, pour qu'on puisse se parler, un effort de compréhension énorme, elle est pourtant moins importante que toutes les autres, et ces deux types d'exploration sont plus proches l'un de l'autre à cause du même désir, ou amour en termes chrétiens, fondamental.
Mais je ne vais pas vous poser la question, pourquoi on n'est pas monté Roberto Zucco. Donc oui, je ne vous poserai pas toutes les questions auxquelles vous attendez. Mais je voulais vous poser une autre question. Depuis...
Je n'ai pas monté Roberto Zucco parce qu'il m'a demandé de ne pas la monter.
Je ne vous ai pas posé la question.
Non, mais la réponse est très simple. Il m'a dit j'aimerais bien que ce soit un autre qui la monte.
Ça, c'est vrai. Mais vous m'avez dit que peut-être que vous la monteriez un jour.
Ben, oui, peut-être. Oui, mais je veux dire, c'est... Peut-être. Mais l'auteur m'a dit je ne souhaite pas que ce soit toi. Il dit bon, je ne la monterai pas.
Il vous a dit pourquoi?
Non. Il avait envie de quelqu'un d'autre. C'est comme dans la vie, je dirais. Il a eu envie d'aller voir ailleurs. Il avait envie de Peter Stein.
Il a eu tort.
Ah, mais peu importe, c'est pas le problème. Non, je crois pas qu'il a eu tort.
Non, parce que c'était pas bien.
Mais ah, ben, Peter Stein a raté, c'est une autre question. Mais c'est pas parce que le metteur en scène à qui qu'il voulait a raté le spectacle qu'il a eu tort. Il avait envie de lui, ça ne se discute pas.
Que sais-tu de lui?
Tout.
Français? Étranger?
Il avait un très petit, très joli accent étranger.
Germanique?
Je ne sais pas ce que veut dire germanique.
Son nom maintenant, tu le sais? Tu dois le savoir puisque c'était ton ami.
Oui, je le sais.
Dis-le.
Je le sais, très bien.
Tu te moques de nous, gamine? Est-ce que tu veux des gifles?
Je ne veux pas de gifles. Je le sais, mais je n'arrive pas à le dire.
Comment ça, tu n'arrives pas à le dire?
Je l'ai là, au bout de la langue.
Au bout de la langue, au bout de la langue. Tu veux des gifles? Et des coups de poing, et qu'on te tire les cheveux. On a des salles équipées tout exprès ici, tu sais.
Non, non, je l'ai là. Il va venir.
Son prénom, au moins. Tu dois bien t'en souvenir. T'as bien dû lui lécher ça dans l'oreille. Un prénom. Un prénom, n'importe lequel, ou je te traîne dans la salle de torture.
Andreas.
Noté, Andreas. Tu es sûr?
Non.
Ou je vais la tuer. Accouche de cette saloperie de nom ou je t'en mets une dans la gueule. Dépêche-toi ou tu t'en souviendras.
Angelo?
En espagnol.
Ou un italien, un brésilien, un portugais, un mexicain. J'ai même connu un berlinois qui s'appelait Julio.
Vous en savez des choses, commissaire. Je m'énerve.
Je le sens. Au bord des lèvres.
Tu veux une tape sur les lèvres pour le faire venir?
Angelo. Angelo Dolce ou quelque chose comme cela.
Dolce, comme doux?
Doux, oui. Il m'a dit que son nom ressemblait à un nom étranger qui voulait dire doux ou sucré. Il était si doux, si gentil.
Il y a beaucoup de mots pour dire sucré, je suppose.
Azucarado, zuccherato, sweetened, gezuckert, occhioni.
Je sais tout ça, commissaire.
Zucco. Roberto Zucco.
Tu en es sûr?
Sûr. J'en suis sûr.
Zucco? Avec un Z?
Avec un Z, oui.
La question que je vais poser, c'est que vous connaissez certainement toutes ces œuvres dites de jeunesse, qui ne voulaient pas d'ailleurs... tellement faire circuler à une époque. Ce qui frappe quand on lit ces œuvres-là, c'est on a l'impression que, bien évidemment, le jeune Coltès portait en lui ce qu'il allait devenir. Un texte comme Les Amertumes, qui est un de ses premiers textes, il y a déjà le Coltès. Ce n'est pas votre sentiment? Même si ce n'est pas abouti.
Je n'ai pas de sentiment parce que je ne connais pas les œuvres de jeunesse. Je ne les ai jamais lues pour la simple raison qu'il m'a demandé de ne pas les lire. Il m'a dit, il ne faut pas que tu lises ça, je ne te donnerai pas à lire. Donc je ne les ai pas, je n'ai jamais vu le texte, j'ai juste lu Salinger qui a été publié. C'est sûr que dans Salinger, toutes les obsessions, le monde est déjà en partie constitué, oui. Mais je ne connais que Salinger, donc je ne peux pas vraiment répondre à la question.
Il m'a demandé de ne pas les lire. Alors moi, je suis très obéissant, je ne les ai jamais lus. Donc je pense, je suis comme quelqu'un à qui on a dit de ne pas lire ça, de ne pas ouvrir une porte. Et je suis, il y a un interdit sur cette œuvre que j'ose pas transgresser. Je veux dire, j'ai même été choqué quand j'ai vu Salinger apparaître en librairie. Je me suis dit, mais il ne voulait pas. Et en même temps, c'est pas vrai, il ne voulait pas que je les lise moi. Mais il les avait donné à lire à Claude Stratz, par exemple. Donc son point de vue était mitigé. Il était tantôt d'un avis, tantôt de l'autre.
Je veux dire qu'il avait le sentiment, dans les dernières années de sa vie, c'est que Claude Stratz était un plus grand complice par rapport au premier BG qu'il pouvait avoir que vous-même, qui était plus exigeant à son égard, peut-être.
Sûrement, oui. Bien sûr, oui. Ça m'arrive plein de fois dans ma vie. C'est quelquefois plus facile de parler aux gens qui travaillent avec moi que de me parler à moi-même. On peut le regretter, mais c'est comme ça. C'est un peu une loi de l'existence.
Mais quand vous avez monté la plupart donc, des grandes pièces de Coltès... Vous avez dit vous-même que Key West, il a fallu vous remettre en cause. Tous, d'ailleurs, il y avait Richard Peduzzi, il y avait Coltès, enfin, il y avait un travail d'équipe, et solidairement, je me rappelle très bien. Mais vous êtes content, par exemple, du Retour au désert ?
Ben, tout à fait, oui. C'est la mode maintenant de dire que ce n'était pas une bonne mise en scène, mais je suis plutôt très content, oui. Oui, je suis plutôt très content. En plus, j'aime beaucoup la pièce que les gens trouvent... Ça fait chic maintenant de dire qu'elle n'est pas si bien que ça, mais je suis content et je pense que je l'ai fait entendre le mieux que j'ai pu.
Mais par exemple, vous dites que vous étiez passeur, mais ça veut dire que vous êtes effacé derrière un texte ? Non.
Non, mais c'était le premier. J'étais le premier à le montrer au public français, en tout cas. Donc à un moment donné, on est à la fois très intimidé, on veut bien faire et on essaye de comprendre comment elle est fabriquée, dans quelles conditions elle sera le mieux entendue. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. D'autant que c'était une époque où Bernard allait mal et que oui. Que je ne savais pas, en commençant les répétitions, je ne savais pas s'il verrait la première, par exemple. Il se trouve qu'il a vu la première et qu'il a vu la dernière. Et qu'il est mort un mois après la dernière. Donc j'avais envie que ça soit bien, et quand il me convoquait pour m'engueuler, pour me dire que c'était pas bien, je changeais en fonction de ce qu'il me demandait.
Je suis Mathilde et je vais vous raser les cheveux. Je vais ôter jusqu'au dernier poil de votre crâne. Et vous sortirez d'ici avec le crâne lisse, comme celui des femmes qui ont couché avec l'ennemi. Et vous connaîtrez le plaisir qu'il y a à sortir dans la rue avec une tête bosselée et blanche, avec la nudité de la tête, qui est la pire des nudités. Vous connaîtrez le rythme lent, interminable, l'insupportable lenteur du rythme de la repousse des cheveux. Vous vous regarderez dans la glace le matin et vous verrez un horrible vieillard, un étranger répugnant, un singe qui singe vos grimaces. Alors vous découvrirez combien il est dur d'habiller un crâne. Vous chercherez des chapeaux et tous vous sembleront affreux. Vous rêverez de perruques, de capuches. Vous haïrez les passants dans la rue. Vous les trouverez tous beaux, avec leurs boucles, le beau désordre de leur chevelure. Et pendant de longs mois, votre vie tout entière, vos pensées, vos rêves, votre énergie, vos désirs, vos haines seront tous fixés sur cette chose idiote qu'est l'absence de cheveux sur un crâne. Vous vous concentrerez pour faire pousser plus vite. Vous tirerez sur les premières pousses pour faire aller plus vite. Et vous verrez que cela ne va pas plus vite, que cela a un rythme insupportable de lenteur, que les journées sont longues, et les semaines longues, et les mois longs à porter un crâne obscène, et vous préférerez qu'on vous ait coupé les couilles. Bernard-Marie Coltès, Le Retour au désert, édition de Minuit.
Vous avez dit un jour, et vous l'avez répété plusieurs fois déjà, que vous aviez eu entre les mains un livre dans lequel il y avait deux textes de Coltès, c'est-à-dire Combat de nègres et de chiens, et La nuit juste avant les forêts, oui. Le titre était plus long, et que La nuit juste avant les forêts, vous l'avez passé à Richard Fontana en disant voilà un texte, moi ça m'intéresse.
Je comprends rien.
Je pense qu'aujourd'hui, vous comprenez très bien ce texte, et surtout après avoir joué trois fois...
Sûr.
Non mais comprenez, on comprend au sens là, fort du terme. C'est-à-dire qu'après avoir joué trois fois La solitude, au fond, vous pourriez jouer tout seul, Patrice Chéreau, ce texte-là, aujourd'hui.
Non mais j'en ai pas l'intention une seconde.
Non, mais
À la rigueur, je pourrais le faire travailler à Pascal.
Ah bon?
Mais j'en ai pas l'intention. Voilà. Une seconde.
Voilà.
Jamais je ne me distribuerai moi dans un rôle. Jamais.
Non. Mais cette rigueur dont vous parlez, est-ce qu'on pourrait imaginer un instant que vous, vous effaçant devant le comédien que vous êtes, redevenir donc le metteur en scène que vous avez toujours été, vous accepteriez de diriger Pascal Grégory en train de jouer ce texte? Si lui, il a envie, s'il lit, et il dit, au fond, il y a, dans ce soi-disant monologue, il y a en réalité deux personnages.
Ah ben, il y en a deux.
Oui, c'est ça. Il y en a un qui... Voilà. Ouais. Et donc, vous ne voulez pas jouer, ça? Vous
l'avez pas lu? S'il a envie, je le dirige tout de suite. Je
mais vous ne l'avez pas lu?
Demain.
Si, je l'ai lu.
Et alors, pourquoi vous n'avez pas envie de le jouer?
Mais personne n'a dit que j'avais pas envie de le jouer. Mais la question ne se pose même pas.
Moi, non, mais là, je vous la pose. Parce que moi, quand je vous ai vu avec Patrice, le soir même, là, quand je vous ai vu ici, je me suis dit...
Vous avez pensé à ça?
Absolument.
Bah, ça prouve que je donne de l'imagination, alors, quand je joue.
Oui, ça prouve aussi bien, que j'en ai un petit peu.
J'en sais pas. Non, je me suis pas posé la question et j'ai pas envie de me la poser pour l'instant.
Donc, parce si que... j'ai compris, si Patrice vous le proposait, vous ne diriez pas tout à fait oui.
J'y réfléchirai sûrement, oui, j'y réfléchirai. D'abord parce que c'est très agréable de travailler avec un metteur en scène avec qui on a déjà travaillé. Oui. Parce qu'on découvre des tas de choses nouvelles tout le temps. Mais quant à savoir si je suis capable, d'abord je jouais ce texte, ça, alors là, ça c'est une autre paire de manches, je peux vous dire. Oui. Parce que c'est un texte terriblement difficile. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps en plus.
Oui.
Je l'ai lu il y a une quinzaine de jours.
Et alors, première impression, si vous devez faire une note de
lecture... Eh ben, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je n'ai rien compris.
Rien compris, mais est-ce que vous avez un tuto? Non, mais il arrive qu'on se trouve devant des tableaux de peinture, on dit, je ne comprends rien, mais c'est magnifique.
Ah, mais ça, je suis d'accord avec
vous. Voilà, alors est-ce que vous, intuitivement, vous sentez...
Absolument, oui.
Par exemple, et le fait qu'il n'y a aucune... que ça commence par un mot et qu'il se termine... Il n'y a qu'un seul point pendant au bout de 40 minutes, est-ce que c'est problématique pour vous?
Non, ça non, je pense pas. Je pense pas que ce soit problématique, qu'il y ait un point ou un autre.
Non, mais je veux dire qu'il n'y a pas de point avant. Qu'il faut...
C'est une seule phrase, oui, tout le texte est une seule phrase.
Je dis parce que quand je...
Mais ça n'a rien à voir avec le jeu de l'acteur. Le jeu de l'acteur...
Comment ça n'a rien à voir?
Mais non, si un acteur joue ce texte, il peut bien, par exemple, s'arrêter quelques secondes, faire office presque de point, même s'il n'y en a pas dans l'écriture.
Oui. Frédéric Arboué.
Mais est-ce que ça ne vient pas du fait que c'est un texte abstrait et à la fois très écrit qui est confronté au jeu qui, lui, doit être concret?
Mais il n'est pas abstrait, le texte.
Non.
Jamais. C'est la difficulté de jouer du Goltès, c'est que c'est jamais abstrait. C'est toujours transposé, mais ça n'est jamais abstrait. Il n'y a pas d'abstraction dans Goltès. Il y a des exemples très précis, il y a des références très précises à des gens qui pourraient parler comme ça. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Y compris dans la solitude, y compris dans la nuit juste avant les forêts. Et la longueur même des répliques n'est jamais abstraite, c'est-à-dire que le besoin de parler, c'est toujours un besoin de parler, c'est toujours un besoin quelquefois, non pas d'éclaircir une réalité, mais de l'obscurcir au contraire, c'est-à-dire c'est toujours un besoin de faire un voile de fumée devant le sujet principal dont on parle, de ne jamais l'aborder concrètement, de le dessiner en creux par la parole, en tournant autour, mais c'est toujours, ça fait toujours référence à un comportement particulier, à une façon d'utiliser la langue soit comme une stratégie, et c'est jamais abstrait. Donc on peut toujours aller chercher dans la vie quels sont les moments de la vie où sous le coup de quelles émotions, sous le coup de quelles brimades, de quelles blessures, on cache les blessures à force de parler, la parole étant là, comme dans la solitude, pour dire qu'on n'est pas, pour faire semblant, de ne pas être blessé, de ne pas être touché, et de garder la main, de garder l'avantage, et de ne pas perdre l'avantage sur l'autre. Et dans la nuit juste avant les forêts, c'est pareil. Je veux dire, le procédé littéraire qui est de faire un flot de paroles qui ne cesse pas, qui est ponctué mais qui n'est pas interrompu, est un procédé littéraire, je veux dire, qui est une course en avant, une fuite en avant, une course en avant de quelqu'un qui, d'abord, qui court après quelqu'un et qui lui demande une chose très concrète, qui est une chambre pour la nuit et qui va dans des endroits en plus où tout est codé, je veux dire, qui va dans des endroits de drague, dans les pissotières, je veux dire, qui en plus est probablement arabe ou africain, en tout cas, en plus, puisque je crois qu'il y a une allusion à la circoncision. Et tout est très très précis, mais caché.
Et ce qui expliquerait donc cet impact auprès des jeunes, cette nécessité, le besoin de parler, où on peut se retrouver.
Je crois que le modèle était dans la rue, et quand je lui ai dit sur la solitude un jour, mais c'est ce qui est difficile à atteindre, ce qui est difficile, ce qui fait obstacle au jeu dans la solitude, c'est le vouvoiement. Il m'a dit, mais pour moi, dans les cafés, je les entends les deux, le dealer et le client, dans les cafés, donc il les connaît, il les a vus, il les fréquentait en bas de chez lui, dans les cafés, je les entends qu'ils se vouvoient, même quand ils se tutoient. J'ai une fascination du vouvoiement anglais, en plus, où il n'y a pas de tutoiement.
Je cherchais à l'époque un texte.
Richard Fontana.
Mais pour le mettre en scène, finalement, Vitez m'avait proposé une soirée à Ivry, qu'il dirigeait à ce moment-là. Et mais je cherchais un texte. Et je suis tombé sur le texte de Coltès. C'est Chéreau, d'ailleurs, qui me l'a passé. Et je l'ai lu dans la nuit 2-3 fois. Et je lui ai retéléphoné le matin. Et je lui ai dit, tu veux vraiment pas de la pièce? Parce que moi, je la prends si tu ne la veux pas. Il m'a dit, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas. Prends-la, je te la donne. Alors j'ai téléphoné à Coltès et on s'est arrangé. Et à ce moment-là, bon, Vitez n'a plus d'argent à Ivry. Et à ce moment-là, je suis rentré au Français. Je l'avais déjà proposé à Jean-Luc Boutet pour faire la mise en scène, parce que moi, je ne me sentais pas capable de faire la mise en scène. Et quand j'ai lu la pièce, j'ai voulu la jouer plutôt que la monter, évidemment. Et puis, on a eu comme ça 2-3 moutures du spectacle qui est arrivé à la, finalement à la dernière mouture. Et il nous a dit, lui, c'est pas du tout comme ça que j'ai écrit, que j'ai imaginé la pièce, mais ce que vous faites est formidable. Alors, je suis d'accord pour que ce soit joué comme ça. Ça durait une heure, ça durait peu de temps, d'ailleurs. Parce que la pièce est écrite sans points, qu'avec des virgules ou des points-virgules. Si je me souviens bien, je ne l'ai pas lu depuis 10 ans. Et donc, on a décidé de ne prendre aucun temps. L'acteur ne devait prendre aucun temps dans la pièce et le jouer très rapidement. Et c'était assez difficile pour moi, d'ailleurs, seulement une question de mémoire, parce que le texte devait venir sans y penser, comme ça. Ça commençait par 30 secondes, une minute de silence, et après le texte commençait, et le texte ne s'arrêtait plus jusqu'à la fin, sans un temps. Et ça, c'était assez formidable. D'ailleurs, je crois que ça a changé pour Jean-Luc et pour moi, en tout cas, ma vision du spectacle en général, des pièces. Après ça, j'ai pris beaucoup moins de temps dans mon jeu.
Micheline Atoun.
Je crois que ce qui fait la particularité de la solitude que j'ai entendue maintenant 3 fois et que je vais entendre ce soir pour la 4e fois, jouée dans la mise en scène de Patrice Chéreau, je veux dire, la particularité, je crois, de cette écriture-là, elle est dans le mot que Patrice vient d'employer, je crois, qui est stratégie de l'écriture, et elle est dans le fait que chaque fois que Patrice entre en scène et qu'il prononce les premières phrases de la pièce, dites-les si vous...
Marchez dehors si vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, c'est ça?
Oui.
Oui.
Si vous marchez dehors, si vous désirez quelque chose que vous n'avez pas, eh bien c'est moi qui marche dehors. C'est moi qui désire quelque chose que je n'ai pas. Jamais je n'ai pu entendre cette phrase sans un frisson terrible, un frisson d'horreur, de dégoût et de désir à la fois. Enfin, tout ce que je crois Coltès y a mis, je crois que ce qui fait que les gens sont si profondément impliqués dans le spectacle, c'est qu'on n'est pas, vous n'êtes pas deux, on est trois, ou plus exactement, je suis à chaque moment l'un d'entre vous. Je suis le client quand le dealer me parle, et je suis le dealer quand le client répond, et je crois que c'est quelque chose d'unique, d'absolument unique dans la langue, dans le phrasé, dans l'interpellation, où jamais Coltès ne se permettrait d'interpeller le public, c'est absolument pas de ça dont il s'agit. Et pourtant, à chaque instant de la pièce, je me sens mise en cause jusqu'à des profondeurs où j'ai peut-être même pas forcément envie d'aller. Et c'est ça, je crois, qui fait la grande force de cette écriture, langue et thème compris.
Il y a un spectateur de Marseille qui est un élève comédien, qui était un gamin de 20 ans, qui m'a dit après la représentation à Marseille qu'il avait été très secoué, parce que chaque fois qu'on parlait, il avait envie de nous interrompre, de nous dire, mais arrête, écoute ce qu'il vient de te dire, tu ne l'écoutes pas et tu ne lui réponds pas. Alors qu'il vient de te répondre, de dire, tu fais exprès, soit au dealer, soit au client, tu fais exprès de répondre à côté, ce qu'on fait tout le temps. Mais on fait tout le temps dans la vie aussi.
Oui, mais je crois d'ailleurs, ce qu'il vient de dire, c'est plus qu'une question de voyeur, c'est de partageur, plus que voyeur, il me semble. Non, c'est ça, on partage quelque chose.
Il a bien réussi son coup, hein, Coltès.
Thank you.
Je me dis ok. Je me lève, je cavale à travers les couloirs. Je saute les escaliers. Je sors du souterrain. Et dehors, je cours. Je rêve encore de Pierre. Je cours. De Pierre. De bière. Je me dis, quel bordel. Les airs d'opéra. Les femmes. La terre froide. La fille en chemise de nuit. Les putes et les cimetières. Et je cours. Je ne me sens plus. Je cherche quelque chose qui soit comme de l'herbe au milieu de ce fouillis. Les colombes s'envolent au-dessus de la forêt et les soldats les tirent. Les raquets font la manche. Les loupards sapés font la chasse aux ratons. Je cours. Je cours. Je cours. Je rêve du chant secret des Arabes entre eux. Camarade, je te trouve et je te tiens le bras. J'ai tant envie d'une chambre et je suis tout mouillé. Mama, mama, mama. Ne dis rien. Ne bouge pas. Je te regarde. Je t'aime. Camarade. Camarade. Moi, j'ai cherché quelqu'un qui soit comme un ange au milieu de ce bordel. Et tu es là. Je t'aime. Et le reste, de la bière. De la bière. Et je ne sais toujours pas comment je pourrais le dire. Quel fouillis. Quel bordel. Camarade. Et puis toujours la pluie. La pluie. La pluie. La pluie. Bernard-Marie Coltès, La nuit juste avant les forêts, édition Stock.
Pour finir avec la dramaturgie de Coltès, vous aimiez beaucoup une courte pièce qui s'appelle Tabataba. Vous l'aimez toujours ?
Ah oui, toujours. Toujours, je l'aime toujours. Bah oui, elle est formidable.
Drôle.
Très.
Ouais, très drôle.
Très, mais enfin, le comique de Coltès était très difficile, particulièrement difficile à jouer, mais très drôle. De même que j'ai été stupéfait par le petit extrait de la pièce qu'il avait commencé après Zucco sur Coco Chanel, qui est une scène, la scène du rouge à lèvres avec la gouvernante, qui est une scène prodigieuse de drôlerie.
Oui, mais je dis ça parce que il y a une chose qu'on est en train de découvrir, c'est que Coltès est un grand auteur, mais c'est un auteur qui sait faire rire.
Oui.
Son rire n'est pas aisé, mais il faut faire rire avec Coltès.
Ah ben, il y tenait beaucoup. Ouais. Il y tenait énormément. Il pensait que... Il y tenait énormément, je vais vous dire, Pascal et moi, je veux dire, on adore quand le public rit, puisqu'il y a des publics qui ne rient pas du tout, d'un soir sur l'autre. L'avantage du rire veut dire simplement que le spectateur ne met pas forcément au premier plan, dès le début de la pièce, la gravité du propos. Et c'est, je pense, que cette légèreté ou cette élégance-là de Coltès que Coltès voulait préserver. S'il ne rit pas du tout, on est tout le temps lourd, totalement lourd et plombé. Ouais. Et quand il rit brusquement, c'est beau comme quand on arrive à faire rire avec des choses graves, ce qui est toujours quand même le plus bel exercice qu'on puisse faire.
Pascal Grégory, sur le rire.
Ah non, pas du tout, au contraire. Ce qui désarçonne, c'est justement quand certains soirs, le public ne rit pas à des certaines répliques, à certains moments où on a presque une habitude maintenant où le public rit. Oui, ça désarçonne. Parce que ce qui est merveilleux dans ce genre de pièce où le rire est là, ou parfois il est là, pas tout le temps, mais parfois il vient, c'est qu'il y a une complicité tout d'un coup qui s'instaure aussi avec le public. C'est que on sent, de par le rire, de par le fait qu'on entend les spectateurs rire, que le public est acquis ou presque acquis, enfin bref, qu'il est en osmose avec nous-mêmes.
Bernard-Marie Coltès, scène extraite d'une pièce inachevée inspirée par Coco Chanel, 1988. Dialogue entre Consuelo et Coco. Je n'embrasse pas les hommes. Peu importe qui vous embrassez et qui vous n'embrassez pas. Croyez-vous avoir le droit de poser votre tampon sur tout ce que vous approchez sans que l'on finisse par vous regarder avec dégoût ? Je n'embrasse jamais personne. Le rouge est l'invention la plus vulgaire et la plus dégoûtante qui ait été faite pour nuire aux femmes. Consuelo, pourquoi barbouillez-vous vos lèvres de cette horreur ? C'est comme un ourlet, Madame Coco. C'est comme une boutonnière. Si vous ne cousez et ne brodez pas soigneusement les bords, le trou va s'agrandir. J'ai peur que ma bouche ne s'effiloche et qu'elle devienne énorme. Mais il y a les lèvres, voyons. Tout cela est prévu. Personne n'a jamais vu sa bouche s'effilocher. Elle est déjà ourlée, votre bouche. Mal, Madame Coco. Le travail n'est pas soigné. Cela se défait au coin. J'ai très peur, Madame Coco, que tout d'un coup cela se déchire au bord et que la bouche se déchire. Vous avez des peurs insensées. Et puis ôtez ces hauts talons. Voilà encore une invention grotesque. Pourquoi les femmes se croient-elles obligées de sonner la fanfare avec leurs godillots pour annoncer leur venue? Les femmes sont trop bêtes. Les femmes sont trop bêtes. Consuelo, ôtez ces chaussures tout de suite, car le bruit me fatigue.
C'était Mégaphonie, aujourd'hui jouer Coltès, pratiquer le théâtre, avec Patrick Chéreau et Pascal Grégory, avec les voix de Richard Fontana et de Bernard-Marie Coltès, et avec la participation de Micheline Atoun, Myriam Boyer, Yves Ferry, Hubert Gignoux et Leslie Hamilton. Texte lu par Valérie Régis. Extrait d'une dramatique de France Culture, Roberto Zocco, réalisé par Catherine Lemire pour le Nouveau Répertoire Dramatique, avec dans le rôle de la gamine Anouk Grimbert. Extrait de spectacle mis en scène par Patrick Chéreau. Key West, à Nanterre, avec notamment Maria Cazares dans le rôle de Cécile. Et Dans la solitude des champs de coton, avec Patrick Chéreau et Pascal Grégory à Ivry. Extrait du documentaire télévisé de Stéphane Metsch, consacré à Patrick Chéreau et diffusé par Arte. Mixage, Agnès Varnier. Collaboration à l'émission, Frédéric Arboué. Mégaphonie, une émission de Lucien Atoun, réalisée par Véronique Lamondour.
Cette émission a été diffusée le 20 février 1996 sur France Culture.